Vous écoutez
RMC.
RMC. Le week-end des experts.
La tête tremble. La tête tremble et tu t'essuies la bouche.
C'est très improbable.
C'est très improbable. Ou alors, il faut vraiment avoir un tremblement de terre dans la bouche. Ce qui peut arriver. Rarement, quand on mange beaucoup. Christian, oui. Plus sérieusement, on va revenir sur l'actualité de cette semaine. Hein. Étonnamment, la terre a tremblé de manière assez forte en Ardèche et dans la Drôme.
La terre a bougé, elle a fait bouger les maisons. Donc ça va nous amener à réfléchir à deux choses. C'est-à-dire, quand on construit une maison neuve dans ces régions, eh bien, quelles sont les obligations en la matière? Qu'est-ce qu'on fait pour renforcer donc la maison? Et puis, quand on a été victime, ce qui arrive relativement rarement de ce type d'événement, eh bien, est-ce que la maison, elle peut être réparée? Est-ce qu'elle est fichue, carrément? On va donc voir tout cela avec Pierre Labbé. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes ancien président de l'Association française du génie parasismique, c'est ça, l'AFPS?
Oui. AFPS.
Oui. C'est quoi l'AFPS?
Donc l'AFPS, donc, comme vous venez de le dire, Association française du génie parasismique, c'est une association loi 1901 qui regroupe en France, et il y a aussi des membres non français, mais on utilise la langue française comme langue de travail, qui regroupe les gens qui s'intéressent à la protection contre le risque sismique, c'est-à-dire il y a des ingénieurs, il y a des sismologues, il y a des architectes, il y a des gens qui prennent des décisions dans les ministères, voilà. Ouais, et tout un chacun peut s'inscrire à l'AFPS, une association loi 1901.
D'accord, voilà. C'est une bonne occasion. Donc oui, d'ailleurs, j'ai pu constater que vos collègues étaient sur le terrain en ce moment.
Absolument.
Ils ont été requis par le préfet, notamment pour apprécier les conséquences de ce séisme, c'est ça?
Oui, absolument.
Votre président, donc,
on peut en parler maintenant ou un peu plus tard, comme vous voulez. Mais effectivement, notre président est en ce moment sur le terrain avec plusieurs membres de l'association.
Et alors, qu'est-ce qu'il fait ?
Notre association a une convention avec la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise du ministère qui permet au ministère de l'Intérieur de nous mobiliser en cas de crise sismique. Et donc, c'est ce qui a été fait à l'occasion du séisme du Teil qui vient de se produire. Et nous avons sur place une douzaine d'équipes de deux personnes. On travaille en binôme. Qui inspectent, ce sont des inspecteurs, c'est le nom qu'on leur donne, ces inspecteurs, qui ont reçu une formation pour ça par l'association, et qui inspectent les maisons qui ont subi des dommages, et de façon à proposer, alors c'est pas l'association qui décide, ce sont les pouvoirs publics qui décident, mais on propose aux pouvoirs publics de classer les bâtiments qui ont subi le séisme en rouge, jaune ou vert. Rouge, ça veut dire n'entrez pas dans ce bâtiment.
Ah oui, on a vu des gens qui sont hébergés dans le gymnase de la commune.
Jaune, ça veut dire vous pouvez entrer chercher vos affaires,
mais vous restez pas dedans.
Et vert, c'est vous pouvez.
Il n'y a pas de problème. D'accord.
Pas de problème. Vous pouvez avoir des
oui, c'est ça. C'est pas parce que c'est vert que la maison n'est pas abîmée, en quelque sorte.
Et puis vous pouvez avoir des étagères qui sont tombées, enfin du matériel.
Il n'y a pas de danger.
Mais voilà, il n'y a pas de danger pour votre vie.
Alors, justement, un séisme comme celui-là, ça fait quoi sur les maisons? Ça les déstabilise à quel niveau? On a vu qu'il y a des pans de murs antiques qui étaient tombés. C'est quoi, je dirais, la pathologie classique d'un séisme comme celui-là?
On peut regarder ce qui s'est passé dans le passé, justement. Oui. Si on regarde les séismes du même genre qui ont eu lieu en France au XXe siècle, on a eu en 1996 un séisme à Annecy, qui est pour les sismologues, enfin pour nous, on l'appelle séisme d'Épargny, mais c'est dans la mémoire collective, c'est le séisme d'Annecy. On a à peu près toujours les mêmes pathologies, c'est-à-dire que les bâtiments qui sont classés vulnérables, c'est-à-dire en gros les bâtiments qui sont des bâtiments de maçonnerie, subissent des dommages qui peuvent être parfois importants. On peut avoir aussi sans aller jusqu'à des effondrements de murs comme on a vu récemment. On a vu ça à Annecy, des chutes de cheminées.
Ah oui.
Je pense que la collectivité avait eu de la chance à Annecy. Le séisme avait lieu le 15 juillet, très tôt dans la nuit. Et il y avait eu les festivités du 14 juillet la veille. Évidemment, quelques heures plus tôt. Et il y aurait sans doute eu beaucoup plus de dommages sur les personnes si les gens étaient dans la rue au moment où les cheminées sont tombées. On a écrasé quelques voitures à cette époque-là, mais on aurait pu voir beaucoup plus de dommages. Donc, ce sont des dommages typiques sur les bâtiments en maçonnerie. Il faut que ce soit la maçonnerie. Puis il peut y avoir aussi le fait que le bâtiment, par exemple, on a vu des photos au Teil, on voit des granges qui sont effondrés. On voit des bâtiments en pierre et qui supportent une toiture en charpente, mais qui n'est pas là, qui n'aide pas à tenir les bâtiments à leur place, si vous voulez. Donc ça, c'est de la construction, de l'ancienne construction traditionnelle qui n'est pas très robuste au séisme. Alors que si vous avez quelque chose qui a été construit en béton armé, normalement, selon les normes...
Ça ne bouge pas. Alors, on va y venir, justement. Dans ces zones, dans ces régions dites sensibles, on voit vos cartes, vous m'en montriez une tout à l'heure, avec des zones rouges. Vraiment, on peut s'attendre là à ce qui se passe un jour. Quelque chose. Alors, quand on construit là, il y a une réglementation maintenant.
Oui. Alors, si on fait un petit historique, les premières normes parasismiques en France, qui n'étaient pas d'application obligatoire, ont été émises en 1955 à la suite du sisme d'Orléansville, puisqu'à l'époque, l'Algérie était encore française. On a mis à jour ces normes en 1969. Et puis l'Association française de génie parasismique a été créée en 1984. Et une des premières missions que nous nous sommes données, c'était de mettre à jour les normes parasismiques. D'accord. Et de faire une des recommandations de normes parasismiques qui ont été émises en 1992.
Et donc
qui
maintenant...
sont devenues d'abord d'application pour le bâti courant en 1997.
C'est récent.
Depuis, c'est assez récent, absolument.
Récent.
Absolument. Les normes pour les immeubles de grande hauteur étaient obligatoires depuis les années 70, je ne saurais pas vous dire exactement quelle date. Et depuis, on est passé aux Eurocodes.
Ah oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a eu on est passé à des normes européennes et l'Eurocode a été mis, la mise en œuvre des Eurocodes a été rendue obligatoire en France en 2010.
Alors, est-ce qu'on peut être sûr? C'est-à-dire, parce que c'est bien qu'il y ait des normes. C'est même essentiel. Je pense que c'est l'AFNOR qui doit, l'Association française de normalisation, qui doit les émettre. Mais est-ce qu'on est sûr que son constructeur, le maçon, parfois, je veux dire, de base, dans le cadre d'une construction ou d'un agrandissement, est-ce qu'on est sûr qu'il respecte ces normes? Est-ce qu'il y a des contrôles?
Oui, il y a des contrôles. Il y a des bureaux de contrôle en France qui font ce travail. Il y a ce côté, il y a d'autres bureaux de contrôle qui font ce travail. Et ça fait partie du... Effectivement, de même que le respect de la protection contre le risque d'incendie, ça fait partie du travail des bureaux de contrôle, d'accord, bien entendu.
Mais il n'y a pas une formation spécifique pour la construction de ce type? On ne peut pas dire, je m'adresse à telle entreprise qui est certifiée ceci, cela. Non.
Les bureaux d'études des entreprises respectent les normes, y compris les normes parasismiques. Alors, il y a des formations pour les ingénieurs, évidemment, dans le domaine du risque sismique. Les bureaux d'études et les entreprises qui interviennent dans ce domaine font appel à des ingénieurs qui sont qualifiés dans ce domaine. Il y a une formation pour les architectes. Il y a à Marseille, il y a une formation dédiée, orientée sur le génie parasismique.
Donc,
mais c'est pas systématique.
Mais on a quand même intérêt là à passer par au-delà de la surface elle-même qui l'impose, mais de passer par un architecte qui est peut-être un peu plus spécialisé dans ce type de construction.
Après, c'est la décision de chacun, bien sûr. Après, ça dépend aussi de la zone dans laquelle vous êtes en France, bien sûr, parce que effectivement, je vous montrais la carte de l'aléa sismique en France. Bon,
cette carte, on peut l'avoir sur votre site, par exemple.
Oui, bien sûr. Oui, on l'a sur le site du ministère de l'Intérieur.
Alors,
sur notre site, bien sûr.
Pour le dire tout de suite, c'est AFPS-séisme, c'est au singulier.
Séisme
point
au singulier,
pour aller voir ces éléments.
Voilà.
On revient dans un instant, il est 8h20. Vous voulez réagir parce que, écoutez, de près ou de loin, vous avez été impacté par ces séismes de cette semaine, ou alors il y en a eu d'autres. Heureusement, c'est très rare, mais ça arrive en France, parfois dans certaines régions. Vous avez remarqué peut-être des désordres dans votre maison. Est-ce que vous avez, lorsque vous avez construit votre maison, réfléchi à ça? 3216, l'appli RMC Direct Studio à votre disposition. Et si vous nous laissez un message via l'appli RMC, n'hésitez pas à nous laisser votre numéro de téléphone. On peut vous rappeler dans quelques instants, car on revient dans 2 minutes sur RMC. C'est La Maison avec Christian Pessé, notre invité. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Voilà, le retour de ce week-end des experts, La Maison. On évoque les séismes et l'impact que les séismes peuvent avoir sur la maison. Ce matin, avec Christian Pessé, puis Pierre Labbé, notre invité, ancien président de l'AFPS, qui est l'Association française du génie parasismique. Christian, nous avons Izzy sur Direct Studio qui nous dit « Bonjour, j'habite dans le Val d'Oise et j'ai ma maison qui a des fissures ». suite au mouvement de sol dû sans doute à la déshydratation et à la sécheresse. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Alors ça n'a rien à voir avec les phénomènes sismiques. C'est le phénomène de gonflement retrait des argiles. Qu'est-ce qu'il faut que notre auditrice fasse ? Eh bien, s'il y a eu une déclaration de catastrophe naturelle et un classement en catastrophe naturelle, j'espère qu'elle a fait sa déclaration dans les 10 jours parce que c'est la loi, c'est la réglementation.
Il faut attendre qu'il y ait ce décret de catastrophe naturelle et après on a 10 jours.
Voilà. Est-ce que je dis vaut pour les séismes là ?
C'est une hérésie. Pourquoi 10 jours ?
10 jours, je ne cesse de le dénoncer parce qu'il suffit qu'on soit en vacances à ce moment-là pour ne pas le faire. Bon, bref, c'est un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, il va y avoir des phénomènes. Là, on va avoir des travaux de renforcement des fondations, de renforcement des chaînages, c'est-à-dire de la cohésion de la maison. Éventuellement, on injectera des résines dans le sol. Est-ce que c'est des méthodes qui sont utilisées aussi pour dans le cadre du séisme qu'on vient d'entendre ? C'est différent quand même.
Oui, enfin, non, on peut pas dire que ce soit des méthodes utilisées, non.
Non. D'accord. Donc, et alors, une maison classée rouge, puisque on parlait tout à l'heure des zones, elle est réparable ou pratiquement, vous allez dire, le bulldozer, ça serait mieux ?
D'abord, je voudrais juste pour conclure sur ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des normes, parce que le message de l'association de génie parasismique, c'est si vous êtes dans un bâtiment qui a été construit selon les normes, vous êtes protégé.
D'accord.
Voilà. Hein. Ne fantasmons
pas.
Voilà. Si vous êtes dans un bâtiment construit selon les normes, vous êtes protégé et ne vous inquiétez pas.
D'accord.
Maintenant, pour ce qui est du bâti ancien, de l'existant, bien évidemment, je peux pas répondre comme ça.
Il faut voir
au cas par cas. Mais il existe des techniques d'évaluation du bâti existant qui a subi des séismes et des méthodes de renforcement éventuelles. Et l'autre association a publié des documents techniques, en particulier un document que j'ai apporté ici avec le centre, évidemment c'est pas très radiophonique, mais avec le centre scientifique et technique du bâtiment,
c'est
sur le diagnostic et le renforcement du bâti existant vis-à-vis du séisme.
Et on trouve ça sur le site de
l'association, voilà, et un cahier technique sur les méthodes d'évaluation et de renforcement sismique des structures poteaux-poutres, voilà. Et avec des techniques très, je veux dire, c'est très pratique. Hein. On vous explique, par exemple, comment faire des renforts avec du tissu en fibre de carbone collé sur des faces de poutre ou de poteaux. Et donc, c'est une façon de renforcer du bâti existant qui a subi un séisme.
Aujourd'hui, on arrive à construire des maisons qui peuvent résister à des séismes très, très, très puissants.
Oui, bien sûr. On arrive à construire pratiquement pour résister à ce qu'on veut.
D'accord. Oui. C'est vrai qu'il y a des régions du monde.
Pensons aux Antilles, pensons à la Réunion. Oui. Là, j'imagine qu'on fait du costaud, quoi.
Quand vous prenez la carte d'aléas sismiques de la France que j'ai sous les yeux ici, vous avez évidemment un zonage qui vous dit il y a des zones plus ou moins rouges.
Oui, voilà.
Et il y a une zone violette, ce sont les Antilles.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a une partie du territoire français qui est vraiment exposée, ce sont les Antilles.
Et beaucoup plus que la France, on va dire, continentale.
Oui,
en fait.
Voilà. Beaucoup plus. Mais les règles, les normes parasismiques sont les normes qui s'appliquent en France.
D'accord. Hein,
et simplement, il faut appliquer les normes avec un niveau de séisme qui est plus important aux Antilles qu'en France. Mais si on applique ces normes aux Antilles, on est aussi protégé aux Antilles.
Christian qui nous dit sur Direct Studio, construisez des maisons en bois, les structures sont souples et réagissent beaucoup mieux au séisme. C'est vrai que le bois...
Le bois est un parti constructif qu'on peut tout à fait adopter et dans l'Eurocode, je travaille en ce moment sur la mise à jour de l'Eurocode 8 qui est l'Eurocode sur la protection sismique. Il y a un chapitre pour les structures en béton armé, un chapitre pour les structures en métallique et un chapitre pour les structures bois, bien entendu. Alors ça ne veut pas dire que si vous construisez en bois, ça va automatiquement bien se comporter, mais en appliquant les dispositions constructives qui sont dans les normes, eh bien effectivement, ça marche. Il n'y a pas de problème, on peut construire en bois.
Parfait. J'ajouterais qu'il y a deux bons bouquins qui sont sortis chez Erol, qui évoque cela. Hein.
Très bien, donc si on veut en savoir plus, bien sûr, on regarde tout cela sur Internet. Merci beaucoup Pierre Labbé. Il est 7h48, c'est RMC, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio pour poser vos questions. Et nous accueillons Louis maintenant, Christian. Bonjour Louis.
Bonjour Louis.
Bonjour Christian, bonjour François.
Bienvenue Louis, on vous écoute.
Donc nous avons flashé sur une maison avec ma femme en vue de prendre notre retraite. Elle est super. Le seul petit détail qui me chagrine, c'est que cette maison a été construite sur terrain agricole. Le propriétaire avait pu construire parce qu'il avait son exploitation agricole à moins de 100 mètres. Donc, il vend la maison, l'exploitation agricole n'est plus en activité. Et je me demandais, à terme, en cas de démantèlement des bâtiments ou de dégradation à cause du temps, qu'allaient devenir ces bâtiments. Parce que ça représente quand même 8000 mètres carrés de bâtiments.
Oui.
Donc c'est vraiment à proximité de la maison, à moins de 100 mètres. Et je voulais savoir les... Voilà.
Et avec des couvertures,
comment ça pourrait se passer ?
Avec des couvertures, j'imagine, en plaque ondulée de fibrociment, c'est ça ?
Alors, il y a des bâtiments qui ont été construits après 2007, mais la ferme était à son père avant, donc je pense qu'il y a des bâtiments bien plus anciens.
Oui, non, mais elle est bien plus ancienne. Si c'est de l'ardoise, de toute façon, vous n'avez aucun souci.
Non, c'est la tôle ondulée.
Ah voilà, donc ça n'induit pas de problème pour vous en termes sanitaires à proximité, sauf si ces plaques se délitaient et commençaient à libérer les fibres dans l'atmosphère quand il y a du vent, quand si ça passait dans votre VMC par exemple, s'il y en a une. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que le jour où vous voudrez les démolir, eh bien, vous devrez passer par une entreprise spécialisée donc dans le recyclage de l'amiante et ça vous coûtera cher. Voilà.
Donc, en fait, les bâtiments sont toujours à lui. Hein.
Ah, ils sont à lui. Alors,
ils ne font pas partie de l'eau que j'achète.
Donc, la seule chose, c'est que le jour où il les démantèlera, il faudra que vous soyez vigilant à ce qu'il y ait eu effectivement un diagnostic de fait concernant la présence d'amiante et que ça se fasse correctement. Mais vous savez, vous décrivez là un problème qui va toucher la France entière. Le nombre de poulaillers abandonnés, on les voit quand on prend le chemin de fer et qu'on traverse des zones agricoles spécialisées, par exemple, dans le poulet, hein, et je pense notamment à des Pays de Loire, eh bien, on va avoir une grande problématique du démantèlement de ces bâtiments. Mais pour vous, voisins, je dirais que, vous savez, je suis exactement dans votre cas, dans ma maison en Normandie. Hein, et dans le cas où ça va être démantelé progressivement et prochainement, il faut être vigilant, c'est tout. Mais il n'y a pas de risque particulier. Hein.
Il avait aussi de la volaille. Le problème, c'est que la société en liquidation, mais c'est une liquidation voulue, donc je me demandais si ça ne l'exonérait pas de responsabilité quant au démantèlement.
C'est celui qui sera propriétaire des bâtiments qui sera évidemment concerné par ce démantèlement et par les risques et donc votre vigilance. C'est la seule chose que je puis vous dire.
Il est 7h52. Merci beaucoup, Louis.